bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Irène, la fondatrice du média Paulette, un média féminin, feel-good et participatif à l'image de sa communauté. J'ai beaucoup aimé cette rencontre avec Irène, vous allez voir, c'est une femme pleine d'énergie qui nous raconte comment elle a réussi à donner vie à un projet auquel elle croyait plus que tout, porté par la volonté de faire changer les choses et de créer un média dans lequel toutes les femmes se reconnaissent. Elle nous partage tous les coulisses de l'aventure Paulette, comment réussir à créer son entreprise quand on part de zéro, comment créer la meilleure équipe possible et beaucoup d'autres conseils pratiques très utiles. On a aussi parlé de ses autres passions, d'ésotérisme, d'engagement et d'équilibre de vie. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant une petite note sur Apple Podcasts que vous pouvez me le faire savoir et en vous abonnant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous laisse nous rejoindre pour cette conversation avec Irène. Bonjour Irène.
Bonjour.
Bienvenue sur In Power, je suis ravie de te recevoir ici. Est-ce que pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne savent pas encore qui tu es, tu pourrais te présenter comme tu le préfères ?
Ok, je m'appelle Irène, j'ai 34 ans et je suis la fondatrice du magazine qui s'appelle Paulette, qui est un média féminin qui existe depuis une dizaine d'années, qu'on peut trouver en kiosque et également sur le digital.
Comment t'es venue l'idée de Paulette ? Parce que c'est vrai qu'en fait ça fait vraiment pas mal de temps que ça existe et c'est marrant parce que je connais Paulette depuis vraiment ses tout débuts, parce que je me souviens très bien de la cousine de mon père, donc je ne connais pas le terme pour ça, mais voilà, la cousine de mon père, elle avait acheté, je crois, le premier journal papier de Paulette.
D'accord.
Parce que si je me souviens bien, il y avait, je crois, eu un système un peu de fonds participatifs, où il y avait vraiment la communauté Paulette qui avait aidé au développement. Et en fait, elle m'avait vachement vendu Paulette, et donc dès le début, moi j'étais jeune à l'époque, j'avais vraiment eu cette impression de ah ouais, c'est un média où la communauté est super engagée et enfin et elle-même porte-parole, on va dire, du mouvement.
Ouais.
Et après, du coup, j'avais suivi de près ce que vous faisiez, mais donc je sais que ça fait longtemps que ça existe et ça a été fait par étapes, donc j'ai hâte de savoir comment ça s'est déroulé.
Mais écoute, oui, comment l'idée est arrivée, moi c'est vrai que depuis que je suis petite, je dirais, on dirait autour du collège, je sais que j'ai envie de faire passer un message pour les femmes. Pour moi, il y avait des choses qui me choquaient, la misogynie, j'ai très vite pu voir ça et ça m'a souvent dérangée. L'injustice en général, le racisme, c'est des choses auxquelles j'étais aussi très sensible. Je pense que je suis quelqu'un qui a de l'empathie, donc quand je vois quelque chose qui me révolte, ça me gêne, ça me dérange. Et puis en grandissant en tant que femme, encore plus. Et en fait, l'envie de faire ce magazine est arrivée très très jeune finalement. Parce que pour moi, la vocation d'un média, c'est aussi celui de faire passer des messages, de bien sûr de raconter des belles histoires, mais aussi de donner des voix à des gens que tu vois pas partout, et de faire passer des messages. Et c'est vrai que je trouvais à l'époque, après quand j'ai grandi, j'ai fait une école d'art appliqué, un BTS communication visuelle, où j'ai appris le graphisme, la publicité. Et quand j'ai commencé, après 2 ans de travail dans la pub en tant que DA junior, ce qui était très cool, mais vraiment correspondait pas finalement à ce que je voulais, j'ai commencé à faire une étude de marché de ce qu'était la presse féminine, même si on en a tous un ressenti. Quand tout d'un coup, tu mets ton nez dedans et que tu essayes de sortir des chiffres et que tu ramènes les couvertures du même mois de plein de magazines différents et que tu vois que toutes les filles sont blanches, qu'elles sont toutes faites pareilles, et qu'en fait, il y a un manque de représentation qui est juste énorme, même si c'est le sentiment que tu as de manière globale, genre une fois que tu sors les chiffres, c'est vraiment effrayant en fait.
Ouais.
Et donc du coup, j'étais très très embarrassée, encore plus énervée, mais en même temps, ce qui était chouette, c'est quand j'en parlais aux gens autour de moi, je voyais qu'en fait, on était tous pareils, je trouvais pas ça normal en fait. Hein. Et du coup, je me suis dit, ça ne justifie que la pertinence de cette idée, de ce projet, qui est de faire un magazine qui parle à un grand nombre de femmes. Et surtout un magazine avec de la bienveillance, parce que je trouvais vraiment que les magazines étaient pas cool avec les femmes, et sont dans une schizophrénie entre accepte-toi achète ta crème minceur et rentre dans cette robe dans laquelle tu rentreras pas, mais c'est pas grave, c'est ça la tendance. Enfin, il y avait vraiment une approche, je trouvais pas vraiment pas bienveillante, et donc l'idée a été de se dire on va inventer un concept qui n'est pas là pour être mieux que les autres, mais qui est là pour amener vraiment une alternative à ce qu'il y a sur le territoire, sachant qu'à l'époque, clairement, tu avais Cosmo, Glamour, Biba, il y avait pas Gradia, il y avait pas euh, n'y avait pas, comment dire, Cosette, enfin, il n'y avait pas tout ça. Donc, on était vraiment sur une presse qui n'avait pas changé depuis vraiment des années et des années, quoi. C'était très, très pauvre. Et puis, en même temps, la réalité, c'est que moi, j'avais 23 ans, j'étais jeune, je n'avais pas d'argent. Et du coup, pour se lancer dans un projet qui avait l'ambition d'être national et qui, où, moi, je me disais, ça ne sert à rien de sortir un petit truc de niche qui va parler qu'à quelques parisiennes. Enfin, j'avais envie tout de suite que ça sorte partout. Donc, grande ambition, grand besoin financier, mais vraiment pas vraiment de sous. Donc du coup, en même temps, à la même époque, c'était le tout début du social media. Les gens étaient sur Facebook depuis un an et demi, pour certains, pas encore. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours été assez early adopter, à regarder tout ce qui se passe, très curieuse, internet, tout ça, tout ça. Et je voyais apparaître le début des blogueuses. Et je trouvais ça fantastique de voir ces blogueuses. Elles arrivaient avec un vent de fraîcheur, de spontanéité, de naturel, qui justement venait s'opposer directement à la presse féminine qu'on mangeait depuis des années, depuis les années 50. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut. Il faut un magazine féminin qui a la spontanéité, la fraîcheur de ce qui est en train d'arriver sur Internet et qui en même temps, a le côté officiel, statutaire de ce qu'est l'objet papier et qui touche du coup un grand nombre de gens et de femmes sans en étant présent dans les kiosques. Et puis en parallèle, l'idée d'une économie, enfin d'un projet collectif est aussi née parce que j'ai créé une page sur Facebook, que finalement toute l'aventure s'est construite grâce à des personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux. Et très rapidement, tout le monde a pris part au projet comme c'était son propre projet. Étant donné qu'il n'y avait pas d'argent, les gens rejoignaient le projet d'un point de vue bénévole. Donc il y avait vraiment... J'ai l'impression qu'en finalement, au lieu d'être une entreprise, ça s'est un peu construit comme une association. C'est vraiment... On avait les mêmes idées, les gens me rejoignaient parce qu'ils partageaient mes valeurs. Et on était là juste pour apporter quelque chose de positif à la société qu'on avait l'impression qu'il manquait. Et le travailler sous forme de collectif. Et en fait, effectivement, quand tu montes un magazine, t'as besoin de journalistes, t'as besoin de photographes, t'as besoin de stylistes, t'as besoin de corps de métier tellement différents que c'est pas un projet que tu peux monter tout seul. Moi, je sais qu'au départ, j'avais une amie à moi du collège qui, avait fait des études de journalisme. J'avais mon compagnon qui lui était développeur et qui a monté sa structure et qui a fait toute la partie tech pour Paulette et puis un pote graphiste aussi et puis ensuite plein de gens qui se sont greffés au projet. Certains sont restés longtemps, d'autres un peu moins parce que forcément quand t'as pas de sous c'est compliqué aussi de pouvoir t'investir à fond. Ça devient comme une asso quand tu t'investis dans une asso à côté de ton job ou de tes études, tu vois. Et puis pendant tout ce temps il a fallu réfléchir au business model, enfin bon, toutes les problématiques business on va certainement parler après et voilà. Et en fait c'est comme ça que cet aspect communautaire a été très fort. D'ailleurs, pour sortir le magazine en papier, parce qu'on est sorti, donc nous, on s'est créé en juin 2009 sur Facebook. Et en octobre 2010, on a sorti notre site, un an plus tard, un peu moins d'un an plus tard. Et un an après, on a sorti le magazine par abonnement. L'idée, c'était de dire, c'était avant même un crowdfunding, c'était de dire, on ne peut pas imprimer le magazine nous-mêmes, donc commandez, abonnez-vous sans l'avoir jamais vu. Et s'il y a assez d'abonnements sur notre site, eh ben, ça payera la production, en fin de compte, du magazine par abonnement. Ouais. Et s'il n'y a pas assez, on vous remboursera.
C'est de la précommande.
C'était de la précommande, exactement. Et ça a super bien marché, donc ça a lancé le magazine en papier par abonnement. Et un an plus tard, on a fait un crowdfunding pour sortir en kiosque.
Ok.
Et donc, on est sorti en kiosque en 2013.
Ok, c'est marrant, du coup, j'essaye de me remettre dans les tout débuts de Paulette. Mmh. Du coup, en fait, tu as eu cette idée de média qui visait à représenter en soi la diversité des femmes.
Ouais.
Et donc, la première étape que tu t'es dit, c'est je vais créer une page Facebook.
Ouais.
Ok. Et de là, tu as fait un peu quoi? Un appel à aide? Un appel à.
En gros, ce que j'ai fait, c'est que donc, à l'époque, il n'y avait pas de page, c'était mon profil perso. Ouais. Et donc, j'ai transformé en profil Paulette, je l'ai appelé Paulette, et j'ai expliqué que ce profil avait pour but de rassembler des gens autour d'un projet futur qui allait sortir. Je présentais mon projet en quelques lignes et je disais, toutes les personnes qui ont envie de rejoindre le projet, n'hésitez pas à m'écrire, on se rencontre. Et j'avais créé, il y avait une dame qui m'avait gentiment prêté un petit café où elle fait des panini ici, Mouino, et qui m'avait dit, si tu veux organiser un événement, quelque chose, je te laisse le café le soir, parce qu'elle n'est pas ouverte le soir. Et donc pendant 2 semaines, tous les soirs, j'ai pitché le concept du magazine à des inconnus qui m'avaient écrit sur Facebook, qui venaient par groupe en fait, et je pitchais le concept et les gens à la fin venaient me voir en me disant, oh, j'ai envie de participer. Puis bon, au bout de 2 semaines de rencontres comme ça assez intensives, j'ai dit, je peux pas continuer à faire ça, mais en même temps ça m'a fait rencontrer tellement de gens qu'il faut que je continue à pouvoir me connecter à plein de personnes. Du coup, je me suis filmée face caméra pendant 2h30 à présenter le magazine et le concept. Et j'ai mis ça sur un blog sécurisé avec un mot de passe parce que j'avais peur qu'on copie mes idées. Et donc, du coup, c'est n'importe quoi. Et du coup, je demandais aux les gens qui me contactaient sur Facebook en me disant oh, j'aimerais en savoir plus, est-ce qu'on peut se rencontrer. Ben, je leur balançais le lien, je leur demandais de signer une clause de confidentialité et je leur balançais le lien du blog.
Okay.
Et du coup, les gens sur le blog pouvaient avoir accès à ma vidéo et on la regardait pour comprendre le projet. Et mon mec avait codé toute une partie questionnaire où il pouvait dire dans quelle catégorie il pouvait aider et participer le magazine, soit si c'était rédacteur, photographe, modèle, styliste, etc. Et c'est comme ça que finalement la toute première communauté, avant même qu'on ait un site finalement, s'est créée.
Ok, et est-ce que tu avais déjà l'idée de ce qu'allait être Paulette, ou même l'idée même de ce qu'est Paulette aujourd'hui s'écrit au fur et à mesure? Toi, tu visualisais comment Paulette à cette époque?
Je la visualisais pareil, dans le sens où il y avait cette bienveillance, cette diversité qui pour moi est essentielle, et un côté très artistique, parce que je sortais quand même d'école d'art, j'avais fait de la direction artistique, et je suis très sensible à l'image. Bon, à l'époque, j'étais jeune, donc on était dans une esthétique un peu naïve, à l'image de mon âge, je pense. Et puis, plus j'ai grandi, plus l'esthétique s'est léchée aussi. Et puis, je pense que nos lectrices grandissaient avec nous, donc elles avaient aussi envie que le magazine soit moins « gamine », entre guillemets, dans son esthétique, donc on l'a fait grandir. Et du coup, pour moi, rien n'a changé entre l'image que j'avais au départ de ce que je voulais faire du mag et aujourd'hui. J'avais déjà de grandes ambitions parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens si c'était pas visible. Enfin, ça a du sens, mais pas assez selon moi. Donc, je voulais qu'un grand nombre le connaisse. Je voulais qu'on soit distribué au national. J'avais envie qu'on couple ça à l'événementiel. Dès le début, on a fait des goûters, des petits events. Alors, au départ, on était 10, 15. Et puis, au fur et à mesure, ça a commencé à être des gros événements. Puis, la communauté sur notre site grossissait. Donc, je suis assez alignée sur les volontés de départ. Ça a été plutôt justement mon drapeau, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais des décisions, c'était est-ce que c'est Paulette, est-ce que c'est pas Paulette, est-ce que c'est Paulette, est-ce que c'est pas Paulette. Et c'est comme ça que j'ai avancé dans mon évolution de projet.
Ouais, t'étais déjà tellement, t'avais déjà tellement l'idée finale que c'est vrai que c'est plus simple à ce moment-là de faire les choix en fonction.
Le fond est le même, c'est la forme qui change avec les années.
Ouais,
c'est vrai. Donc la forme, tu l'as fait évoluer, mais tant que tu gardes le même fond, finalement, tu changes pas.
Ok. Et est-ce que du coup, t'avais un travail à côté à cette époque pour pouvoir vivre, ou est-ce que tu touchais le chômage? Enfin, comme c'est toujours une problématique des gens qui veulent se lancer,
bien sûr,
ça peut intéresser.
Alors non, moi j'ai été freelance en direction artistique les derniers moments où juste avant que je me lance. Du coup, quand j'ai arrêté, je n'avais pas de chômage et j'étais juste avec moi-même. Après, la chance que j'avais, c'est que ma maman vit en banlieue parisienne, donc du coup je suis retournée chez elle, du coup j'avais pas de loyer à payer. J'ai eu de la chance aussi que mes copains, mes potes, me payaient nos sorties, quoi, parce que du coup, j'avais pas de sous non plus pour ma vie sociale. Après, tu décides de faire des sacrifices, tu pars pas en vacances, tu fais plus de shopping, mais je pense que ça va de pair avec l'idée de se lancer à fond dans sa boîte, c'est aussi d'accepter que tu peux pas tout avoir en même temps.
Ouais.
Et du coup, clairement, j'ai fait ça. Après plusieurs années chez ma mère, mon compagnon, lui, a monté sa boîte qui a bien démarré, et du coup, on a pris un appartement ensemble, mais j'étais complètement, pour le coup, dépendante. Donc, j'ai vraiment eu la chance d'avoir pu être soutenue soit par ma maman qui me donnait le logis, soit par mon mec plus tard qui a payé clairement notre appartement pendant des années jusqu'à ce que j'ai mon premier salaire sur Paulette.
Ouais.
Donc ça, c'est clairement, j'ai bien conscience que ça a été une grande chance, parce que si j'avais été à Paris et que, je sais pas, ma famille était dans le sud ou machin, je pense que j'aurais quand même fait Paulette, mais effectivement, j'aurais avancé certainement moins vite parce que j'aurais été pas 100% dédiée au projet, quoi.
Ouais. Et est-ce que tu savais déjà, tu vois, au tout début de Paulette, dans quoi, entre guillemets, t'allais t'embarquer, j'allais dire même, surtout en termes en termes économiques? Parce que, en fait, si on connaît un peu le milieu des médias, on sait que c'est hyper dur d'être rentable dans un média. On sait que les problématiques économiques sont très compliquées. Mmh. Est-ce que t'avais conscience de ça?
Non, pas du tout.
Tu l'as réalisé au
clairement,
fur et à mesure.
Pas du tout. Moi, pour moi, ça me paraissait une évidence qu'on allait cartonner parce que, économiquement, je me disais, mais c'est la révolution. C'est-à-dire qu'en fait, le média féminin n'a jamais été changé. Donc, on arrive, on fait une révolution. Donc, c'est normal que tout le peuple féminin va se lever et va nous suivre. Et évidemment qu'on va prendre l'argent de tous ces grands groupes de presse médias. Sauf qu'en fait, j'avais aucune idée que le business model des médias se cassait la gueule, que l'industrie... Parce que comme je te disais, c'était les prémices du digital. Et donc, on se rendait pas encore compte que les gens allaient arrêter d'acheter du papier et que ça allait vraiment impacter lourdement les médias. La chance que j'ai eue dans ce concept, c'est que comme j'étais quand même une jeune fille de sa génération, pour moi le digital était essentiel au sein du projet, et cette notion de communautaire, c'était une vraie innovation pour le coup, pour un média, de se dire on même pour des marques, à l'époque, personne ne basait ses trucs sur une communauté. Et moi, ça faisait partie de mon concept. Ouais. Donc, en ça, c'était assez visionnaire. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, avec les années, tirer mon épingle du jeu. Ouais. Parce que quand finalement, des marques disaient, ah, mais nous, cette année, on a coupé les investissements publicitaires papier, ou on n'investit plus que dans le L, mais tous les autres féminins, on arrête, parce qu'on met dans les blogueuses, ou dans les influenceurs, ou dans des communautés digitales. Bah, comme nous, on était avant tout une communauté, finalement, on n'était pas squeezés. Ouais. Et donc du coup, d'une certaine façon, mais par contre, quand j'ai fait mon business plan, sachant que je n'avais pas fait de business school et que j'ai fait un truc en téléchargeant un PDF sur Google, genre comment monter sa boîte, limite les business plans pour les nuls, tu vois, un truc du style, parce que je me sentais pas du tout légitime de le faire. Donc au départ, j'ai fait des sortes de brouillons bizarres. Moi, j'avais l'impression qu'au bout de 2 ans, je faisais plus 500 000 euros. Enfin, tu vois, j'étais parce que j'avais appelé des magazines, demandé le prix des pages de pub. Enfin, j'avais fait ce que tu fais normalement pour faire un business plan. Hein. Potentiellement, combien coûtent les choses que tu vas vendre, combien eux ont l'air d'en vendre et combien toi, potentiellement, tu peux en vendre à ton échelle. Et en fait, sauf que bah, les magazines, ils disent leur prix de page de pub. Mais la réalité, c'est que en fait, quand tu sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont donnés ou ils les vendent jamais au prix annoncé. Et puis finalement, c'est pas parce que tu ouvres un mag et qu'il y a 30 pages de pub que finalement, tout est vraiment paid. Enfin, et tout ça, moi, je ne savais pas. J'avais aucune expérience dans le secteur. Et j'ai mis des années à comprendre cette problématique, enfin comprendre, à trouver des solutions et des idées pour cette problématique business qui était centrale dans mon entrepreneuriat. Mais comme moi, je ne créais pas une entreprise, j'étais pas là pour dire je crée absolument une société, je dois être dans la rentabilité, je crée un projet, j'avais envie que ça soit visible. En fait, je n'étais pas drivée par l'économie et la chance que j'avais, encore une fois, c'est parce que ma mère me faisait ma bouffe et que j'avais une chambre chez elle, en fait, en vrai.
Ouais, c'est ça, tu voulais juste porter ton message.
Et du coup, j'étais là, genre, il faut que je donne toute mon énergie possible et imaginable pour que ce truc aboutisse, mais je n'étais pas dans ce truc de dire comment je peux me payer 3000 euros par mois dès l'année prochaine, tu vois. Et donc forcément, ça m'a permis, je pense, du coup, de développer des choses que d'autres magazines n'ont pas eu le luxe de se donner le temps de développer faute de moyens et tout. Et ça nous a permis, nous, je pense, de travailler en profondeur notre essence et notre marque. Et c'est ce qui nous donne une légitimité aujourd'hui quand on fait des choses. Mmh. C'est parce que bah, on a fait des choses qui rapportent pas d'argent, mais qui sont nécessaires pour donner du sens, en fait.
Carrément, ouais, mais c'est très beau. Enfin, je me reconnais un peu là-dedans, dans le sens où si on n'a pas, je sais pas, une fibre hyper business ou qu'on n'est pas motivé par l'argent, c'est juste qu'on a envie de donner vie au projet et après ça devient une problématique de facto si tu veux que ça continue à vivre.
Mais pour payer les gens qui travaillent pour toi, tu vois, rien que ça.
Tant que tu peux continuer sans rien toucher, bah, tu t'en fous, quoi.
Je pense que ça a une limite parce que tu grandis, tu vois, mais je pense qu'à 23 piges, tu t'en fous. Enfin, en tout cas, moi, je m'en foutais. C'était pas ça qui me. Je me disais, au pire, ça marche pas. Dans 2 ans, j'arrête. J'ai 25 ans, c'est bon. Je peux retourner sur. J'avais assez confiance en moi, sur mes capacités de faire du travail correct.
Et donc,
je m'étais dit, je trouverais du travail, enfin, tu vois, ça. Donc j'avais absolument rien à perdre à cet âge-là. Et je pense que il faut être exigeant, mais il faut aussi avoir un peu la patience de son âge. C'est-à-dire qu'en fait, t'es jeune, t'as rien à perdre, t'as pas d'enfant, t'as pas de responsabilité. Si t'as la chance d'avoir tes parents à côté ou une coloc pas chère, genre juste. Soit intransigeant sur plutôt faire des choses qui ont du sens avant de penser tout de suite à l'argent ou ah j'ai pas pu partir avec mes copines à Marrakech, enfin tu vois, il y a un moment donné tout grand projet mérite des sacrifices et ça va vraiment de pair, quoi.
C'est
en fait si t'es endurant et que tu t'es pas trompé sur la bataille que tu tiens, ça paye toujours, en fait. Ça paye toujours.
C'est vrai, en fait, je pense que tant que tu t'arrêtes pas
et que tu toujours veux tout donner, être toujours en mouvement. Moi, j'ai l'impression, après, je pense une nature un peu hyperactive, mais je pense qu'il faut toujours être dans le mouvement, toujours se réinventer, toujours essayer de nouvelles choses, être généreux dans ce qu'on fait, ne pas en fait le fait d'être frileux et d'avoir peur, ça te ralentit et ça te fait pas forcément faire les bons choix. Donc même si on a tous peur, faut être courageux et c'est pour ça que c'est hyper important, je trouve, quand tu montes un projet, d'avoir une motivation qui va au-delà de ah, j'ai une super bonne idée, je pense que ça peut marcher, mais d'aller plutôt dans un truc qui te touche personnellement, où tu as l'impression que tu défends une bataille
de fou,
parce que du coup, toutes tes ressources iraient aller chercher là-dedans.
Ça a du sens, en fait. Tu te bats pour le sens que ça.
Et tu te bats pour quelque chose qui a du sens, qui donne du sens à ta vie, qui peut-être peut donner du sens à la vie d'autres personnes et les personnes qui te rejoignent, et tout d'un coup là-dedans, il y a plein de ressources dans les moments les plus difficiles, tu t'accroches à ça. Alors que si tu te dis ah, je me lance, ce qui est complètement louable et que plein de gens font, surtout quand ils sortent de business school, j'ai un concept, je vois que sur le marché il y a une opportunité, bim, je me lance. Je pense que c'est plus dur finalement dans les moments de difficulté. adapté.
Ouais.
Parce que ce qui t'a motivé, c'est avant tout une opportunité business.
Ouais.
Et moins quelque chose qui te touche perso.
Totalement. Bah, c'est marrant, la semaine dernière, j'ai fait un podcast où je parlais solo et je conseillais des livres. Il y en a un que j'ai conseillé qui s'appelle Start With Why de okay. Simon Sinek. Mmh. Et il explique qu'il a rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi au sens entendu par la société. Et c'est tous parce qu'ils avaient un pourquoi très fort. Mmh. Et c'est ça qui va être le moteur de toute ton aventure entrepreneuriale.
Ouais.
Je voulais rebondir aussi sur un truc que tu as dit avant, comme quoi tu étais toujours en mouvement et que tu étais toujours un peu alerte de ce qui se passait et que tu avançais toujours en soi avec ton temps.
Ouais.
Est-ce que tu fais ça très consciemment? Est-ce que tu fais des veilles? Est-ce que tu as des techniques qui te permettent de voir tout ce qui se passe?
Parce
que ça peut parfois être difficile, surtout dans notre milieu et dans cette société.
Je suis d'accord. Je pense que j'écoute beaucoup mon intuition. Ça, c'est un truc et je pense que c'est souvent les atouts des entrepreneurs aussi qui réussissent. Après, le mot réussite, il veut tout dire et rien dire.
Vraiment.
En tout cas, qui arrivent à aller au bout de leur projet, plutôt. Pour moi, c'est ça la réussite. C'est de dire que tu t'es fixé un but et que tu as réussi à l'atteindre d'une certaine façon. Et du coup, moi, je me fais vraiment confiance. Je m'écoute quand je sens qu'il y a un truc. Je me dis, ah, là, il y a quelque chose. Je le sens. On va tester, on va essayer. Je fais de la veille d'une certaine façon, dans le sens où je passe beaucoup de temps sur Instagram et je follow énormément de personnes, genre 7500 personnes.
Tu
likes pas mes photos, désolé. Je l'ai peut-être raté, ce qui est fort probable aussi. Et en fait, le truc, c'est que je suis beaucoup d'artistes contemporains, de photographes, de modèles et des gens de partout sur la planète, en fait. Et du coup, pour moi, avant, quand j'étais étudiante, j'allais au musée beaucoup, j'achetais beaucoup de magazines étrangers, c'était ma veille, parce qu'on t'apprend ça en école d'art appliqué de toute façon. Et même quand j'étais en agence en tant que DA, j'ai passé des heures avant qu'il y ait Pinterest, il n'y avait pas Pinterest à l'époque, donc j'ai passé des heures plongé mon nez dans les livres de photographes, à scanner des images, à faire des moodboards ensuite sur l'ordinateur, des livres de photographes, des magazines étrangers, pareil, de mode super niche, indé, pointu. Et du coup, forcément, j'ai cultivé cette curiosité là aussi par rapport à l'image, et je trouve que les images font pas ça. Moi, je suis vraiment team image, mais c'est normal, j'ai une formation visuelle, mais du coup les images font passer beaucoup de messages, et souvent les photographes ou les artistes qui font de l'image, illustration ou photo d'ailleurs, sont témoins d'une époque, et moi je suis très dans l'expression de mes émotions d'un point de vue artistique. Même si tu vas sur mon compte perso, il y a quelques photos perso, mais en vrai c'est beaucoup des inspirations artistiques, parce qu'elles sont souvent le reflet de ce que je suis en train de vivre à ce moment là d'une émotion qui me traverse, et du coup j'adore l'idée de faire passer les émotions par ça. Et du coup, pour moi, j'adore suivre la scène artistique aussi, parce qu'ils sont témoins d'une époque. Et puis, bien sûr, tout ce qui se passe dans le monde, je trouve que ça reste important malgré tout. Et donc, du coup, ouais, Insta, je pense que c'est mon premier truc de veille. Et après, mon intuition par rapport à ça. Et puis, je suis très curieuse, je rencontre plein de gens. Grâce à mon métier, j'ai la chance de rencontrer plein de gens. Donc, je me nourris aussi de ce que, tu vois, tout le monde rencontre. Mais je crois que j'ai un truc psychologique où j'aime bien voir comment la société va évoluer. Je me pose toujours la question de quel va être le monde de demain, telle ou telle technologie arrive. Tu vois, tu te dis, il n'y avait pas les stories Instagram il y a encore quelques années. Le monde était forcément différent. Ça a eu un impact énorme sur la vie des gens et sur la vie des jeunes. Et en fait, je suis tout le temps en train de me questionner l'impact sociologique de ces choses-là. Et du coup, ça nourrit aussi ma créativité. Parce que comme le média est en réinvention perpétuelle, c'est essentiel d'avoir cette réflexion-là, selon moi, pour le jury en tout cas.
Et comment tu réserves, ou comment tu arrives, on va dire, à réserver du temps pour ça? Parce que je trouve que tout ce qui est brainstorm, tu vois, très créativité, très se poser des questions, quand on a un mode de vie et un métier où on est hyper sollicité et toujours en rendez-vous, etc., ça peut vite passer à la trappe, ou alors tu vois, tu peux vite en fait enchaîner.
Je comprends.
Et t'arrives pas à te dire, je vais réserver une heure pour ça. Est-ce que toi tu le fais?
Non.
Ou c'est vachement
plus... Je le fais tout le temps en fait. Et c'est entre, tu vois, là juste avant d'arriver, je suis sur mon téléphone dans les transports, dans la rue. En fait, je pense déjà, une fois j'avais regardé le temps passé sur Instagram, cette option c'est une catastrophe.
Ah, j'ai jamais regardé.
Regarde ça, ça fait flipper. Une fois, j'étais à un dîner entouré de journalistes et cette option venait d'arriver, et je sors le truc et je vois un truc du style 6h30 ou 7h pour la semaine où j'étais, et j'ai dit aux filles, vous avez combien vous et tout, parce que tu sais, sur le coup tu sais pas en fait si c'est beaucoup. Les meufs étaient toutes à 20 minutes, 25 minutes de moyenne, et là j'étais là genre wow. Et du coup j'ai cherché sur internet pour essayer de voir c'était quoi la moyenne. Les personnes lambda, le commun des mortels qui est pas dans les médias ou dans machin et tout, il est autour de 20 minutes.
minutes en moyenne, en fait, ouais, okay, sur Insta.
D'accord.
Et bon, moi, c'était très, très loin. Et après, on a interviewé Eva Chen pour Paulette. Elle sort son téléphone, on lui dit, alors, toi, t'as combien cette semaine et tout? Et elle était à 2h30, tu vois. Et j'étais à genre, ok. Elle dit, mais parce que c'est parce que je travaille sur Instagram. Et moi, j'étais à genre, je ne travaille pas chez Instagram et pourtant, je suis à 6h.
Ok, tu peux aller demander ton prix chez Insta.
J'étais là, mais en même temps, c'est l'outil que j'utilise le plus avec WhatsApp dans ma journée, tu vois. Donc,
ouais, bah, la preuve, ça t'aide au quotidien. Ça m'aide aussi, quoi.
Et du coup, je regarde tout le temps, dans tous mes moments de pause, de transition, même chillance chez moi. Ouais, j'avoue, c'est dur. Après, j'ai fait pour la première fois une coupure de 3 jours de mon téléphone il y a de ça 2-3 semaines. Et ça m'a fait un bien assez incroyable. Ça m'était jamais arrivé.
Ouais.
Ne pas regarder mon téléphone pendant 3 jours. Hein. J'ai prévenu ma mère, tu appelles sur mon téléphone de mon mec s'il y a un souci, mais mon téléphone est éteint. Exceptionnel.
Qu'est-ce que t'as fait pendant ces 3 jours?
Eh ben, on était partis, c'était pour l'anniversaire de mon chéri, je l'ai amené dans une sorte de retreat spirituel. Alors, ça fait un peu cliché, mais en fait, t'es juste au milieu de la nature, tu fais du yoga, de la méditation, tu manges sain et tu te détends. Et idéalement, c'est cool si t'arrives à couper ta technologie, tu vois.
Ouais, c'est en phase.
Et c'était assez exceptionnel.
Tu ressens après le bienfait, toi, t'as ressenti
De fou. Quand je suis rentrée, j'ai réussi à tenir 3 jours en me disant j'arrête mon téléphone super tôt ou je le regarde pas tout de suite quand je me réveille. Puis ensuite, la vie te rattrape.
Ouais. C'est fou, je pense que c'est vraiment l'environnement dans lequel tu es, en fait.
Ouais. Bah, la nature, ça appelle aussi à la regarder, à l'apprécier. Je trouve que quand t'es en pleine nature, c'est pas pareil que quand t'es dans l'espace urbain.
Bah, pas du tout.
L'espace urbain, t'as plus envie de fuir dans quelque chose qui t'amène
dans
ailleurs.
La frénésie, un peu.
Voilà. Ouais. Et donc, du coup, tu rentres dans ta technologie parce que t'es pas en train d'apprécier le fait d'être dans l'espace urbain, tu vois. Alors que je trouve que quand t'es dans la nature, c'est tellement beau, c'est tellement plus grand que toi, que d'une certaine façon, juste le respect du fait que t'as envie de lever ton nez, ton téléphone deux secondes, en fait.
Et t'as moins la notion du temps aussi, je trouve.
Ouais, et le temps est
t'as
complètement
moins cette
coupé.
Sensation que t'es toujours en retard un peu qu'on peut avoir dans les grandes villes.
Complètement, complètement.
Et est-ce que, là, j'y pense, vu que tu nous parles des comptes Insta, que tu regardes et qui t'inspirent, est-ce que t'en as quelques-uns que t'aimes particulièrement?
Là, c'est difficile, parce qu'en plus, j'ai 3/4 du temps, ce qui est horrible, c'est que je ne retiens absolument pas les noms, vu que j'en suis énormément.
C'est juste les images qui passent.
Dès que je vois passer un truc qui me plaît, je regarde tout le temps la source. Ah, c'est qui ce photographe? Ah, c'est qui ce truc? C'est qui cette styliste? C'est qui ce machin? Et je les follow systématiquement.
Ouais, ouais.
Du coup, en fait, j'ai un flux d'images qui passe tous les jours, mais sans. Là, comme ça, tout de suite, j'arrive pas à te citer. Peut-être ça reviendra dans le cours de la conversation.
Au pire, je me dirai après, je noterai dans les notes.
Mais clairement, finalement, c'est plein d'individus avec des métiers différents, mais qui tous ensemble me fait un super feed.
Ouais,
et souvent, mon mec, il regarde et il me dit, putain, mais moi, j'ai pas ça sur mon feed Instagram, c'est cool et tout. Je lui dis, bah ouais, tiens, si tu veux cultiver
une personne.
C'est comme une sorte de galerie en permanence. Il y a des artistes, il y a plein de trucs. Du coup, c'est hyper intéressant, en fait.
C'est vrai.
Je vois absolument beaucoup moins de posts qui sont genre moi mon bébé ou mes vacances ou enfin en stories mais je veux dire du coup dans mon feed c'est plutôt très artistique dans ce que je suis.
C'est intéressant, c'est là où on voit que les réseaux peuvent aussi apporter quand même des choses super positives.
Ah ouais, c'est passionnant.
On peut ne pas être exposé à ça si
cultive,
on n'a pas
quoi.
Instagram quoi.
Oui, bien sûr. Ouais.
Je me demandais aussi, vu que maintenant, j'imagine que l'équipe Paulette a dû bien grandir, vous êtes combien?
On est 15.
Okay.
Donc ça reste une team petite, clairement, surtout pour tout ce qu'on fait. On est pas...
Vous êtes efficace.
On travaille beaucoup, 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 beaucoup. Tout le monde est ultra... C'est génial, j'ai une team que j'adore. Elles sont méga engagées, et ça, heureusement qu'ils sont là. Donc on est 15, mais en fait, dès le début, on a été très nombreux. Hein, parce que finalement, pour faire un Mac, comme je disais, il faut tellement de corps de métiers différents.
Et
si t'as envie qu'il y ait une cohérence, t'as envie que les gens ils soient un peu, font partie de ta team, quoi.
Ouais.
Que ce soit pas juste des gens qui soient de passage.
Ouais.
Et du coup, t'as très vite besoin de tous ces gens. Donc, une grosse quinzaine.
Et comment t'as fait pour bien t'entourer, surtout si au début il y a eu un réel engouement et du coup beaucoup de personnes qui se proposent, mais en fait parfois elles peuvent se proposer et tu te rends compte que malheureusement c'est pas les personnes
hyper
que tu recherchais.
Intéressant comme question. En fait le truc c'est qu'en plus au départ moi j'avais pas de moyen de rémunération.
Ouais.
Donc en fait au début tu prends les gens qui se proposent, c'est normal, je veux dire ils arrivent avec une super belle volonté, c'est comme quand t'as une asso et que tu veux accueillir des bénévoles. Mais en fait au fur et à mesure tu deviens très exigeant parce que tu vois que ton truc est en train de se développer et puis au final t'as quand même envie d'en faire une entreprise. Donc il faut aussi que tu vois, et en même temps c'est dur parce que c'est dur de diriger des gens que tu ne payes pas. Ça a été, en fait ce qui est génial c'est que ça m'a appris le management, c'est-à-dire que moi par exemple je pense que c'est très dur d'être manager, je pense que c'est un des plus gros trucs quand t'es chef d'entreprise, c'est vraiment le management, surtout quand t'es des entreprises à taille humaine genre PME et tout, et surtout quand tout le monde a à peu près le même âge. Je veux dire, là, la meuf, c'est ta copine, tu sors en soirée, mais le lendemain, tu lui dis ce qu'elle doit faire. Donc, c'est vraiment très difficile. Et puis, à l'époque, j'étais très jeune, quoi. Enfin, donc, du coup, j'ai fait plein d'erreurs de management, j'ai appris. Mais aujourd'hui, ça m'a, je pense, donné des qualités de manager que d'autres managers qui sont pas passés par cette phase de travailler qui avec des gens qui travaillent gratuitement pour toi, tu n'apprends pas parce que tu es dans un truc, bah, tu es payé, donc tu fais en fait.
L'autorité est plus simple.
Une autorité qui est beaucoup plus simple. Alors qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris à écouter les gens, comprendre leurs problématiques, me mettre dans leurs chaussures. Alors, tu te sens hyper isolé quand t'es patron parce que les gens se mettent jamais à ta place. Ils savent pas du tout ce que tu vis, ils savent pas tes angoisses, que tu portes, ils savent pas que quand eux ils t'envoient un message pour se plaindre, il y en a 15 autres en parallèle qui font la même chose et qu'en fait à la fin de ta journée, juste t'es épuisé d'avoir dû donner le biberon à 15 personnes en simultané, tu vois. Ouais. Et en même temps, bah, prendre le temps, toi, d'essayer de comprendre ce qu'ils vivent, comment ils abordent leur métier, qu'est-ce qui les stresse, qu'est-ce qui les stresse pas, ça te permet d'improve aussi leur poste, leur fiche de mission, et de faire qu'ils soient les meilleurs possibles dans leur job. Et puis même eux, du coup, ça leur donne envie finalement d'être aussi plus indulgents avec toi, de t'aider. Enfin, ça crée un engagement deux fois plus important finalement de ton équipe. Donc ça, je l'ai vraiment appris, je dirais, ces trois dernières années où j'ai l'impression que le rapport avec mon équipe, il est plus sain que jamais parce qu'il y a, il y a un respect mutuel, mais au-delà de ça, ouais, ils se sentent écoutés et moi, je sens qu'ils sont là pour moi si à un moment donné, c'est trop et que je dis ça suffit là.
Ouais.
Ils vont se démerder entre eux et ça va être fluide. Et c'est okay. Vraiment, je pense, propre aux petites PME, ça. Parce que c'est piloté comme une famille, en fait.
Enfin, ouais, tu vois, tout le monde se connaît, donc
voilà,
y a plus ce rapport humain.
Tout le monde est très proche, le rapport humain est très présent. Donc, c'est à la fois une force, à la fois, ça peut être un défaut. Et c'est là où la place du boss, elle est très dure à tenir, tu vois, au sein de ce genre de structure, parce que tu deviens ami avec les gens, quoi. Enfin, tu vois. Donc, c'est très, très difficile de mélanger amitié et travail. Et voilà, je l'ai appris dans le passé où, du coup, il y a eu des couacs qui s'étaient... l'immaturité finalement, hein, ouais. D'expérience, manque d'expérience. Et aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir m'en servir pour justement piloter le bateau et le navire et toute cette belle team j'ai l'impression la plus juste possible.
Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux personnes qui essayent de s'en sortir dans le management et qui sont peut-être là où tu étais, toi, il y a quelques années?
Moi, je pense, donne du temps à ton équipe, écoute-les, pose-leur des questions. Moi, souvent, par exemple, quand quelqu'un se plaint parce qu'il n'arrive pas, il y a un truc, il y a un problème, ou il y a quelqu'un dans la team, quelqu'un d'autre qui lui a filé des choses qui sont pas de l'ordre de sa mission. Enfin, tu vois, tu dois gérer aussi beaucoup de choses en interne, les uns avec les autres, tu vois. Ouais. C'est pose un maximum de questions, essaye de comprendre et finalement mets ta créativité et ta logique au sein aussi au service de ça, ouais. Au service de l'humain, parce que l'humain, c'est ce qui fait que la boîte tourne. Je veux dire, pour moi, souvent ils disent les investisseurs, on investit bien sûr sur le patron et sa vision, mais on investit aussi sur sa team. Et la team, enfin, si tu n'as pas une bonne team, si tu la manages mal, enfin, ça foire un projet en fait, une team. Et tu vois bien même qu'il y a une personne un peu négative ou qu'il y a des mauvaises vibes qui rentrent dans une équipe, ça peut te pourrir toute une équipe en fait.
Vrai.
Et c'est essentiel le recrutement des personnes. Donc déjà, ça commence au recrutement. Premier conseil, c'est soigne ton recrutement. Essaye de te dire, est-ce que cette personne-là, je pourrais demain potentiellement m'associer avec elle. Est-ce que elle me donne la confiance, la bonne vibe, l'énergie. C'est pas genre, est-ce qu'elle est capable d'exécuter ce que je vais lui demander, mais c'est plutôt, est-ce qu'elle peut être micro-entrepreneur dans l'entreprise, est-ce que c'est quelqu'un qui que j'aime bien, déjà rien que le feeling, c'est con, mais essayer de sentir les gens, être plus dans l'empathie, parce qu'en fait ça te donne plein de clés, plein de solutions, et en fait au début tu crois que tu perds du temps à faire ça, parce que clairement ça te prend énormément de temps, et moi au départ c'est aussi pour ça que je l'ai peut-être un peu négligé, c'est que j'étais on est tous dans le même bateau, au bout d'un moment tout le monde est payé,
ouais.
Enfin il y a un moment donné, vos petits problèmes on s'en fout, on avance, sauf qu'en fait bien sûr ça marche. Mais des fois, il y a certains sentiments qui se gangrènent à l'intérieur de gens qui n'osent pas dire ce qu'ils ressentent. Hein. Puis les gens dans la vie, ils ont toujours peur de te parler. Tu peux être la boss la plus cool du monde.
Ouais.
Comme t'es la boss,
ouais.
On n'ose pas te dire. Donc du coup, on dit un autre, qui dit un autre, qui dit un autre. Et en fait, ça crée des trucs inutiles. Des fois, je suis juste un petit manque de reconnaissance. Tu m'as pas dit que c'était bien et tout, machin.
Ouais.
Donc...
ouais.
Crever l'abcès, discuter, parler s'il faut 3 heures avec la personne et sortir de cette conversation en étant sûr que tout a été mis sur la table, que tout est clair, que tout est sorti du ventre et que derrière on avance en construction positive et recruter que des gens positifs. Tous les gens qui voient le verre à moitié plein dans leur vision de vie en général, franchement, c'est pas des bonnes recrues pour une équipe. Surtout pas pour des petites boîtes.
Ouais.
Il faut que des gens positifs. Pour moi, ça change tout. Quelqu'un qui a pas de compétences mais qui est positif, il a le potentiel d'avoir les compétences. Et machin, quelqu'un qui a des compétences mais qui est négatif ou cynique en permanence et tout, le mec, la personne peut te niquer ta boîte, ta team, tout en fait.
L'état d'esprit compte énormément.
Ah, essentiel, essentiel.
Et j'ai vu aussi que tu avais fondé deux autres projets.
Ouais.
Est-ce que tu veux nous en parler? Quand est-ce que ça s'est fait? Quand est-ce que tu as senti que Paulette s'était assez développée pour pouvoir, parce que j'imagine quand même te réserver du temps pour ces autres projets. Voilà, est-ce que c'est venu d'une volonté de te renouveler? Est-ce que c'est des projets qui sont quand même super liés à Paulette?
Alors, le premier projet, c'est Hacker, qui est une association qu'on a créée en janvier. Alors, pour moi, c'était un besoin que je ressentais personnellement pour le coup, parce que j'avais l'impression qu'avec Paulette, on faisait quelque chose qui avait du sens, qui est hyper important et qui a un impact pour moi très positif et voire social. Et c'est pour ça que je disais que ça, pour moi, c'est plus a été monté comme de l'activisme plus qu'avant tout un business, tu vois. Il y avait une dimension activiste derrière, le message derrière. Mais c'est vrai que je me disais, on va pas assez loin dans la démarche, donc il y a quelque chose à faire d'un point de vue associatif. En parallèle, je voyais aussi qu'au sein de mon équipe, il y avait des gens qui avaient envie de s'investir dans l'associatif, mais qui savaient pas trop quel asso choisir. Même moi-même, en fait, en vrai, j'étais pas du tout investie dans aucune asso, alors que je ressentais le besoin dans ma vie de me dire, il faut que j'ai l'impression vraiment d'aider des gens et pas que par le biais d'un truc qui est censé faire du profit en fait. Et donc moi-même j'avais rejoint aucune asso parce que je pense que le premier frein quand les gens le font pas, c'est que peut-être t'as pas eu autour de toi soit quelqu'un victime de violence conjugale qui a eu un cancer du sein ou un truc, enfin tu arrives pas à te rattacher à une cause plus qu'une autre, tout est aussi grave et important,
et du coup tu pourras choisir
et du coup au final tu te retrouves à rien faire. Et donc je me suis dit ce qui est bien, c'est que le constat il est pas que chez moi, il est chez plein d'autres personnes, et donc essayons créer une asso qui a pour but de justement embrigader toutes les personnes qui ont envie de s'investir associativement, aller chercher nous de notre côté, faire un travail de curation de plein d'assos qui sont pas assez visibles, qui ont pas encore d'ambassadeurs, qui manquent encore de moyens, mais qui chacune sont dans des catégories différentes, et créant une sorte de pont avec la communauté qu'on a de lectrices et les bénévoles qui nous rejoindront sur cet asso pour créer des événements ensemble, pour profiter évidemment de la notoriété de notre média pour aussi les rendre plus visibles, et la confiance que les marques ont en Paulette depuis 10 ans, puisqu'on travaille avec beaucoup de marques, évidemment, c'est le business model d'un média, depuis 10 ans. Essayez aussi chez eux d'aller chercher de l'argent pour aider ces associations-là, étant donné qu'aujourd'hui, les consommateurs consomment de plus en plus conscious, de plus en plus...
consommateurs.
Voilà, ils sont de plus en plus acteurs, et du coup, ils attendent des marques aussi qui fassent des gestes.
Carrément.
Et du coup, demain, pour moi, les marques qui vont tenir, c'est celles qui vont être... qui vont faire le plus de choses finalement, parce que entre deux sodas au même goût, tu vas choisir celui qui a une démarche plus engagée.
Carrément.
Et donc du coup, ramener les marques dans ce trio permet aussi d'aller chercher les sous que nous on n'a pas avec Paulette. Mais eux, leur proposer une nouvelle forme de publicité, puisque du coup, on a inventé un concept de publicité solidaire qui fait que une marque qui achète une page de pub dans le mag, elle peut l'acheter sous un format classique, ce qui est le cas pour le moment de 99% de nos pages de pub, ou elle peut prendre l'option solidaire où en fait, elle reverse 15% à une asso et du coup, c'est écrit sur sa pub. Et c'est con, mais c'est la même pub. Ils ont juste dépensé un petit peu plus d'argent, mais c'est parti à une association. Et en même temps, le consommateur qui voit la pub voit que cette pub, elle a eu un impact positif.
Carrément.
Et ça, je peine encore beaucoup à réussir à convaincre des annonceurs. Bon, après, c'est que depuis quelques mois, mais c'est pas si simple que ça, parce que souvent, du coup, en fait, c'est plus un problème technique organisationnelle. Genre, il y a les budgets sur le RSE, et puis les budgets pour le market, et puis c'est pas la même chose, et puis c'est compliqué. Je leur dis oui, mais bon, là, à un moment donné, il faut changer aussi votre manière de faire.
Ouais.
Donc, je pense que ça va prendre un peu de temps, mais je pense que ça, il y a moyen que c'est quelque chose qui se développe sur le secteur de la publicité.
Ouais.
Bon, ça n'existe pas du tout, c'est une pure innovation Paulette. Mais voilà. Et donc, lier ça à cœur, notre asso, et puis du coup, aller chercher plein de causes qui nous tiennent à cœur tout au long de l'année, et recruter des bénévoles pour venir mener des projets sur ces différentes associations. D'ailleurs, notre prochain projet, enfin, le premier projet du coup à cœur, c'est là en juillet. On s'est associé à Kaboubou, qui est une asso qui crée du lien social entre les migrants et les résidents, donc personnes comme toi et moi, au travers le sport, et qui propose des cours de sport gratuits toutes les semaines, qui sont des sports collectifs où tu es mélangé avec des migrants. Donc ça crée un vrai lien social, parce que les gens, tu les revois, tu fais du sport avec eux, rien de plus beau que de faire du sport pour créer des liens. Et du coup, on va monter une journée d'Olympiade justement avec eux. Et donc,
cool.
Ça va être super. Et donc, voilà, on a plein d'autres assos qu'on a choisis avec qui on va travailler. Et ça, c'est je suis ravie. Et là, je me suis associée avec deux personnes sur cet asso. Enfin, associée, on ne peut pas dire associée, mais on est
cofondée.
Ouais. Voilà.
Ouais.
Une fille de ma team, Julie Dubrac, qui est, elle est chef de projet, mais en elle est pas en fixe, enfin elle est là depuis super longtemps, mais elle a d'autres missions à côté, qui elle était déjà engagée associativement parlant, et une amie qui elle était à la direction de la com, Amandine Piriou, du Stadium pendant 10 ans, et qui aujourd'hui justement est consultante et qui a elle aussi envie de donner plus de sens à sa carrière en étant sur un domaine, ouais, voilà, comme ça, qui lui parle. Et donc on est toutes les trois, et puis on a des bénévoles, on a aussi une trésorière, Fanny Casal, bref, donc ça va grossir petit à petit au fur et à mesure des projets, mais en tout cas on y passe du temps, et c'est dur effectivement à concilier avec tout le temps que me prend Paulette.
Ouais.
Et le deuxième projet que j'ai lancé, pareil, avec deux associés, hein, pareil, de toute façon pour avoir d'autres projets je peux pas être toute seule, hein, donc
t'as déjà nommé, hein.
À ce stade je veux pas, donc je suis forcément obligée d'être associée. C'est Ezo Paris sur Insta, qui a pour but de dépoussiérer l'univers de l'ésotérisme et de la spiritualité. En fait, ce qui est hyper marrant, c'est comment ce projet est arrivé, c'est que donc j'ai deux associés, donc Lucilia Chenel et Anan, dont je vais abîmer le nom de famille, donc je ne vais pas le dire, parce que là je vais l'abîmer. Et donc Lucilia et Anan, qui sont amies d'enfance et qui viennent de Nice et qui ont toujours été très sensibles à la médiumté, qui ont elles-mêmes des dons, qui tirent les cartes, etc., et qui ont été dans le domaine de l'art en termes d'études et de travail, l'art et le design, et qui ont chacune, toutes les deux, sans que je le sache, posé. Enfin, je savais qu'elles avaient posé dans Paulette, mais je ne savais pas qu'elles étaient amies. Lucilia, elle a dû poser il y a bien 6 ans dans Paulette, et Anan il y a genre 2 ans. Et en fait, moi de mon côté, la spiritualité, c'est quelque chose dans lequel je me suis mise, on va dire, je dirais, il y a un an et demi, parce que bah, justement la vie rapide que j'avais professionnellement, je me posais la question de comment me faire du bien pour pouvoir tenir justement cette cadence, et je suis rentrée par la méditation, que j'ai découvert, que j'ai adoré et qui m'a fait beaucoup de bien, et qui m'a permis aussi d'expérimenter des états psychiques et même des états physiques de flottement, où tout d'un coup je ressentais des choses, tu vois. Et en fait, c'est drôle parce que du coup on a fait un numéro sur la spiritualité avec Paulette, qui est sorti en début d'année mais qu'on a travaillé du coup en fin d'année dernière, et je postais beaucoup de choses sur mes stories, sur les réseaux qui avaient un rapport avec ça. Et donc à ce moment-là, Lucilia m'écrit en me disant: oh, j'ai l'impression que t'es un peu là-dedans, est-ce qu'on peut se voir, j'ai un projet dont je veux te parler. Et en fait, elle arrive avec Anan, donc je dis: ah bah c'est marrant, vous vous connaissez et tout. Et oui, on a mis d'enfance, c'est genre trop drôle. Elle dit: bah on a envie de dépoussiérer l'ésotérisme, on pense qu'il y a des choses à faire, qu'est-ce que t'en penses, on voit que c'est un sujet qui te plaît. Et alors je leur explique que je suis en train de préparer tout un numéro là-dessus, que je trouve ça fascinant, qu'en plus du coup je suis à fond dans les vidéos, je lis plein de choses, hein, on t'ouvre le truc, tout s'ouvre, et comme par hasard, tout d'un coup, tu rencontres plein de gens qui sont intéressés par le même sujet que toi. Donc c'est assez fou.
L'alignement des planètes.
Ouais,
hein.
Tout s'aligne, assez exceptionnel. Et je leur dis: mais c'est génial, mais vous devez faire ça, mais il faut que vous fassiez ça. Enfin, et je commence à rentrer dans la phase, la meuf créative qui a 15 000 idées à la seconde. Elle dit: ah mais c'est trop bien, ça t'intéresse pas? Et j'ai dit: bah ouais, non mais en fait on pourrait trop faire ensemble. Puis là dans ma tête je me dis: mais non mais attends, Irène, t'as absolument pas le temps, qu'est-ce que tu racontes?
En plus t'avais déjà hacké en tête,
mais
j'imagine.
Bien sûr, ouais. Et je dis: mais non, t'as pas le temps, pourquoi tu dis ça et tout. Et puis j'ai dit: ah bah on se revoit, on en reparle et tout. Et puis on s'est revus, je crois, une semaine après, 10 jours. En fait, c'est le truc qui m'avait travaillé toute la semaine, j'étais super excitée, j'avais
quoi.
Et pourtant je m'essouffle absolument pas sur Paulette, parce qu'on a tout le temps des nouveaux projets.
Ouais.
Tous les ans on sort des nouvelles choses, là on préparait nos podcasts, on a une émission de télé sur Click depuis le mois de novembre, enfin tu vois,
il y a toujours plein de projets déjà en incubation.
En fait, pour moi, justement,
Paulette,
comme je suis quelqu'un qui m'ennuie vite, ouais, j'adore l'idée de créer tout le temps des nouveaux projets au sein même de Paulette.
Ouais.
Mais au sein de Paulette c'est plus simple, parce que du coup j'ai mon équipe,
ouais,
enfin tu vois, et ça me change pas mon temps, c'est juste que du coup mais du coup là c'était hors Paulette. Donc je me suis dit: wow. Je dis aux filles: bah écoutez, moi si je m'investis, je vais forcément pas pouvoir m'investir autant que vous, parce qu'elles sont 100% dédiées sur le projet. Je dis donc voilà, je vais prendre des participations à l'entreprise, mais ça sera plus minoritaire que vous. Et donc voilà, et puis finalement bah on a réparti un peu chacune nos missions, et puis on se parle en fait finalement toutes les semaines sur WhatsApp, on se voit tous les 10 jours, et en fin de compte c'est juste une question d'organisation. Elles sont quand même très actives,
ouais.
Moi dès que je vois des choses je partage, je relaie. Ce qui est super, c'est que l'idée c'est de dire voilà, on va faire découvrir aux gens des pratiques qui existent depuis la nuit des temps dans toutes les cultures,
ouais.
Que ça soit des magnétiseurs, des astrologues, des médiums, des chamans, voilà, des gens qui ont des connexions avec l'au-delà, des choses comme ça, et montrer que bah, ce sont aussi une manière de reconnecter avec soi, qui peut marcher et qui marche, parce que bah, en fait quand au bout d'un moment on dit des trucs qui sont improbables, tu te dis que là, il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'hasard.
Il n'y a pas d'hasard. Là, ce n'est pas des trucs que tu trouves sur Google quand on donne son nom, quoi, tu vois. Quand la personne te dit, va chercher dans ton... je suis en connexion avec ta grand-mère. Elle te dit d'aller regarder dans ton tiroir, d'aller voir ci, voir ça, et que tu vois un truc. Enfin, c'est, tu vois, c'est des choses qui sont des fois indiscutables, en fait.
Ouais,
Et bluffantes, et surtout qui t'apprennent beaucoup sur toi. Et du coup, moi, je trouve ça fascinant... fascinant et j'adore. Et donc l'idée, c'est qu'on la plateforme Ezo, donc notre site qui va sortir en septembre, soit une référence si tu as envie de booker un praticien. Déjà que tu découvres ces différentes pratiques et que tu comprennes c'est quoi la différence entre un astrologue, un médium, quelqu'un qui fait de la kinésiothérapie, l'hypnose, quelles sont ses pratiques. Grâce à nous, de pouvoir booker des gens certifiés que nous, on valide parce qu'on les a tous rencontrés.
Ouais.
On est en train de tisser un énorme réseau de praticiens. Moi, j'en avais déjà dans mon entourage parce que j'étais sensible au sujet. Les filles en avaient énormément parce qu'elles étaient très sensibles au sujet. Donc du coup, on deviendrait une sorte de caution pour ce genre de praticien. Et puis à côté de ça, bah, y a évidemment une énorme tendance qui s'est développée sur, je dis souvent, le kit de la sorcière moderne, donc les cristaux, les petites brumes, l'encens, voilà, tous ces petits objets. Et du coup, bah, l'idée, c'est d'avoir aussi un e-shop pour pouvoir vendre des choses. Et on va, comme on est toutes les trois aussi très sensibles à l'art et à la création, l'idée, c'est qu'on fasse des collabs avec des artistes pour bah, par exemple sortir des séries limitées. Là, on va avoir un miroir qui va bientôt sortir avec une jeune designer, et tout ça en rapport avec la spiritualité, mais vraiment par le biais de l'art.
D'accord.
Et du coup, on sortira des mini capsules, ça peut être un bijou, ça peut être un sac. Enfin, il y a plein de choses en discussion avec des jeunes créateurs autour de la spiritualité, et du coup, comme ça, il y a une dimension un peu e-commerce, et puis il y a une dimension plus booking et culture, culture spirituelle, quoi.
Et est-ce que t'as pas le sentiment que t'arrives pas à être autant sur ce projet que t'aimerais l'être? Parce que je trouve que quand on a déjà un gros projet à soi, avoir d'autres projets qui gravitent, parfois on est là, oh mince, j'ai oublié de faire ça. Ou parfois on a l'impression qu'on se divise et que c'est dur de garder son focus.
Au début, j'avais peur d'avoir cette culpabilité-là, même vis-à-vis de mon équipe Paulette. Je me disais, ils vont croire que je suis moins investie, etc. Après, bon, déjà, je pense que c'est pas pour tout le monde. Moi, je suis vraiment une hyperactive. Donc, ça veut dire que, en fait, je travaille tout le temps, mais j'aime ça. Donc, du coup, c'est ma passion. Donc, je vis comme une passion, pas comme un travail. Donc, du coup, forcément, je pense que j'ai plus de temps disponible mental à consacrer que quelqu'un qui a peut-être besoin de plus de repos, par exemple. Donc, je pense que ça, c'est déjà, ça joue vachement dans la balance quand même. Ensuite, le deuxième point, c'est que malgré tout, faut pas l'oublier, j'ai quand même une team. C'est-à-dire que j'ai 15 personnes qui travaillent pour moi. Et aujourd'hui, je délègue beaucoup de choses. Donc, je valide évidemment, on discute tout le temps. Mais pour l'exécution, en tout cas, j'ai des gens qui le font.
Ouais.
Et puis, sur Ezo, elles sont deux à 100% dessus. Donc, c'est sûr que des fois, j'aimerais être plus présente, mais elles le savent depuis le début, finalement. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, non, moi, je vois plutôt les choses en positif. J'ai l'impression que tout s'enrichit. En plus, tu vois, la typique sur Paulette, on a fait des choses avec des marques, j'ai pu intégrer Ezo dedans en prestation de service. C'est une sorte de ping-pong. On va faire des choses à l'étranger parce que Paulette s'internationalise. Là, en janvier, on a lancé notre site en anglais et on a fait un lancement à New York qui s'est trop bien passé. Là, en septembre, on va avoir tout un appartement Paulette à New York pendant la Fashion Week. Ça va être super. Et la typique, j'ai envie de ramener Ezo aussi parce que je trouve qu'il y a des choses à faire. Et donc, du coup, moi, je vois tout comme quelque chose qui se sert et qui se tire vers le haut.
Ouais.
Et c'est vrai que je pense que la maturité, j'ai 34 ans aujourd'hui et j'ai grandi et j'ai appris à ne plus être dans la culpabilité et prendre, en fait j'accepte les choses comme elles viennent, et si je sens que mon intuition me dit de le faire, je m'écoute et j'y vais, et je suis pas en train de me rediscuter 20 fois le mais tu te rends compte, les gens vont penser que et tout. Je m'écoute, en fait.
Tu vois les ponts et pas les barrières. Est-ce que tu as toujours réussi à écouter ton intuition, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler?
Je pense que de base j'ai toujours eu ça en moi, parce que ma mère me racontait quand t'étais tu faisais exactement ce que tu pensais, ce que tu voulais. Tu savais exactement ce que tu voulais. Donc, d'une certaine façon, quand tu es un enfant et que tu sais ce que tu veux, c'est que tu écoutes d'une certaine façon ton intuition, parce que tu n'as pas le knowledge de mettre
expérience au service de ta décision.
Ni l'expérience, ni l'apprentissage et ta logique, tu vois. C'est pas, c'est pas ta pensée qui te fait prendre cette décision, c'est ton instinct. Jusqu'à un certain âge, pour moi, les enfants sont 100% dans l'instinct, en fait. Et donc, du coup, je pense que je suis quelqu'un d'instinctif. Par contre, il est certain que, au fur et à mesure des validations que j'ai eues grâce à mon projet, ça m'a donné encore plus de confiance à l'être. Parce qu'au début, enfin, moi, j'ai eu plein de moments de sentiments de non-légitimité, justement, plutôt sur la dimension business, parce que je venais du côté créatif. On me disait, ah, bah, t'es une communicante, t'es une créative.
Ouais, on essaie de te mettre dans une case.
Donc, ouais, c'est normal que tu fasses pas énormément de profit parce que t'es pas une business. Et puis, c'est marrant, parce qu'au bout d'un moment, j'ai switché le truc et je me suis dit, bah, en fait, c'est quoi, je suis une créative, donc je vais te mettre ma créativité dans le business et je vais faire en sorte que ce truc-là qui me donnait pas envie, parce qu'en plus, on me faisait bien sentir que c'était pas pour moi, et ben, je vais essayer de faire en sorte de m'amuser dedans parce que je vais y insuffler la notion de challenge créatif, en fait. Ouais. Et c'est à ce moment-là vraiment que les choses ont changé, je trouve, parce que je l'ai plus abordé comme un fardeau. Putain, il faut que je trouve comment ma boîte va être rentable. Putain, c'est super dur et tout. Et plutôt dire comment tu peux réinventer un business model. Et là, du coup, tout d'un coup, ça devient un challenge créatif. Et ça, moi, j'adore. Tu me donnes un problème. J'adore l'idée d'essayer de trouver des solutions et de le résoudre. Donc voilà. Je pense que au fur et à mesure qu'effectivement tu as des success fees, ce qu'on appelle ces petits challenges que tu peux check, ces petites réussites tout au long de ton parcours, ça booste ta confiance en toi et du coup ça te dit bah regarde, tu t'es écouté alors que c'était pas gagné, ça a marché, continue.
Ouais.
Et donc du coup je continue, mais je continue à faire des erreurs des fois, je continue à me tromper, je continue des fois à me dire que j'ai cru que j'ai écouté mon intuition, mais en fait j'ai plutôt écouté mon cerveau, tu vois. Mais
c'est dur de faire la différence, je trouve.
Bah c'est là où la méditation et la spiritualité aident énormément. Okay. Parce que moi ça m'a beaucoup aidé à, en fait ce qu'ils disent souvent en méditation, c'est que tu sais ils te disent essaye de ralentir tes pensées. Il y a certains gens qui disent arrête de penser, mais ça n'existe pas d'arrêter de penser, tu penses tout le temps. Mais par contre, ce qui existe et qui est vraiment central dans la méditation, c'est de devenir un spectateur de tes pensées. Et en fait, dès lors que tu deviens un spectateur de tes pensées, ça veut dire que tu as fait un pied en arrière et que tu vois ce que tu penses, mais du coup tu ne peux plus être tes pensées dès lors que tu es le spectateur de tes pensées. Et en fait du coup tu as beaucoup plus de recul pour pouvoir dire si c'est bien ou pas bien, si tu vas faire ci ou faire ça. Enfin, c'est plus ta pensée qui guide, c'est ton intuition et ton subconscient, on va dire. Et en fait plus tu médites, plus tu deviens fort à ce jeu. Et en fait du coup plus tu te... Moi je sais que je me suis retrouvée, parce que du coup j'ai fait beaucoup de méditation, je fais sur une appli chez moi, même des fois dans les transports les gens ne calculent pas, mais je suis en train de
noter.
Voilà. et du coup ça m'a aidé à quoi? C'est à m'aider à me rendre compte des fois dans des situations que là j'allais prendre une décision instinctive de me dire tiens je vais poster ça ou je vais envoyer un message à un tel. Deux secondes après, mes pensées me disaient ah non mais laisse tomber, ou ah non tu devrais pas, ou ah regarde si tu fais ça machin, et j'allais censurer mon intuition. Mais comme j'ai eu le réflexe de faire ce travail, je m'observe et je me dis mais attends, là t'étais en train de te censurer, et ben non, tu vas faire ce que t'avais prévu de faire, et je le fais. Et ça c'est exceptionnel, parce que quand t'arrives à cette situation là où tu te vois que toi-même c'est tes pensées qui censurent ce que tu vas faire, et que tu te dis il y a pas moyen, je ne vais pas censurer l'intuition que j'avais. Et qu'en plus, généralement, tu ne te trompes pas. Ce que tu as fait est positif, ça marche, ou tu as un bon retour. Et bah, du coup, c'est génial et ça devient une motivation et ça devient un réflexe. Et du coup, tu te retrouves de plus en plus à écouter ton subconscient.
Tu as juste utilisé une appli pour méditer, ou est-ce qu'on t'a guidé un peu? Parce que non. C'est difficile, je trouve, quand on n'a pas l'habitude. J'ai essayé plusieurs fois.
C'est vrai.
Putain, c'est pas mon truc, quoi. Après, j'ai essayé Headspace, qui est une appli qui vient d'arriver en France. Et je trouve qu'elle est très bien faite et je commence à prendre un peu le rythme, tu vois.
Écoute, je pense qu'il faut commencer déjà de base par effectivement les trucs de les namatata, les machins, juste pour comprendre la base de la méditation et de la respiration, parce que c'est avant tout déjà une approche respiratoire. Après, moi, mon appli, elle s'appelle Insight Timer. C'est une énorme agrégation de méditation partout dans le monde, dans plein de langues différentes. Et ce qui est génial dessus, c'est que donc déjà, tu peux choisir les langues que tu parles. Je fais beaucoup en anglais parce que pour le coup, je maîtrise bien. Et je trouve qu'il y a plus de qualité, de contenu de qualité dans les méditations en anglais. Et ensuite, tu peux choisir la durée que tu as pour ta méditation. Donc, 5 minutes, 10 minutes, 15, plus 30, 1 heure. Et ensuite, tu peux choisir un état psychologique dans lequel tu es. Donc, si tu es dans l'anxiété, si tu es dans l'énervement, si tu es dans un truc où tu veux te reposer. Enfin, il y a plein de mots-clés. Donc, c'est fantastique parce que tu rentres par le mot-clé. Et ensuite, tu peux trier par les méditations dans cette catégorie qui ont été le plus écoutées ou les mieux notées ou ceux qui ont le plus de commentaires. Et puis, par rapport à la durée que tu veux y consacrer. Et en fait, grâce à ça, j'ai découvert plein de méditations que j'aime beaucoup et du coup, que je me repasse régulièrement au quotidien, parce que j'essaye de méditer, on va dire, tous les 2-3 jours. Vraiment genre bien 20 grosses minutes, tu vois. Et des fois il y a des journées où je médite une fois le matin, une fois le soir, tu vois. Et en fait c'est vrai qu'au départ, grâce à Paulette, j'ai eu la chance d'être invitée à des sessions de yoga, des sessions de méditation.
Ouais, ouais.
C'est comme ça que j'ai été initiée. Et puis en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps d'aller à tous ces événements et c'est tout, vrai. Parce que malgré tout, ça prend vachement de temps l'aller, le retour, plus la séance et tout. Du coup, je me suis dit, j'aimerais bien quand même continuer l'expérience, parce que de toute façon, je pense que n'importe qui allongé sur un tapis ou juste tu fais ton travail de respiration, tu te sens mieux après.
Même moi, si ça m'endort.
Ah ouais?
C'est tout ce que ça fait.
D'accord.
Ouais.
Ah, c'est fou ça.
Et je suis dans l'état de sieste, tu vois. Que j'aime pas en plus. J'étais au taquet il y a deux secondes et là j'ai juste envie de
peut-être
dormir.
Qu'il faut choisir le bon moment. Hein. Peut-être que c'est pas un moment où tu as envie de rester énergique. Peut-être que c'est un moment où justement tu te sens fatigué et que ça va te faire du bien de faire cette pause.
Ouais.
Où tu te sens. Moi je sais que ça m'aide beaucoup quand je suis dans des moments où je sens qu'il y a une angoisse qui monte ou un stress ou quelqu'un. Tu vois, je sens que mes nerfs montent et je me dis, je vais pas être très agréable avec la prochaine personne qui va m'écrire un email parce que là je suis pas dans un monde. Donc. Pour pas être cette personne qui va répondre sèchement à un WhatsApp ou un truc parce que c'est pas de leur faute à eux, mais c'est l'état dans lequel je suis, je vais faire un travail sur moi et je vais revenir dans un meilleur mood, tu vois. Et je l'utilise vraiment comme un truc pour justement être la meilleure personne de moi-même pour pouvoir travailler le mieux possible avec les gens, tu vois. Et des fois, t'as pas le temps de le faire et tu vois bien. Et des fois, je suis là, genre, putain, j'aurais dû prendre 5 minutes là et faire juste une pause et respirer, tu vois.
Ouais.
Et moi, ça m'aide beaucoup. Donc, je le conseille. Je pense qu'il faut essayer plusieurs fois. Faut trouver la bonne aussi.
Ouais.
Parce qu'il y a des méditations guidées qui, justement, sont insupportables. Et c'est pour ça que j'aime bien Insight Timer parce que tu trouves plein de gens différents. Et à un moment donné, il y a des gens dont t'aimes la voix, t'aimes l'approche.
Ouais.
Ils parlent pas trop. Moi, j'aime bien. Moins il y a de paroles, mieux c'est, je trouve. Mais parce que du coup, j'ai fait tout ce travail déjà moi-même. Donc, une fois que tu as été guidée plusieurs fois, tu te guides toute seule dans le scannage de ton corps, de remonter chaque élément dans ton corps, sentir les sensations et tout. Et puis voilà. Donc, c'est
ça te fait du bien.
Ouais, de ouf.
J'ai quelques dernières questions à te poser. Une, c'est où est-ce que tu vois Paulette dans 10 ans? Est-ce que tu as encore plein de rêves, plein de projets et tu arrives à garder cette fin que tu avais au début?
Ouais. Alors moi, Paulette, c'est marrant. Donc, tu vois, quand je l'ai lancée, au départ, je ne savais pas du tout ce que ça allait devenir, même si j'avais de l'ambition. J'avais aucune idée qu'on serait là encore dans 10 ans, mais je me suis fait tatouer. Je me suis fait tatouer direct.
Ouais, je l'ai vu.
Parce que je me suis dit, déjà, quoi qu'il arrive, ce sera le premier projet de ma vie. Et du coup, même s'il avait duré que 6 mois, je ne le regretterai jamais. Et deux, en vrai, j'ai envie que ce projet me survive. Enfin, en fait, je me disais, j'ai envie que peut-être... quand je serai morte, le média continue, quoi. Parce que pour moi, c'était d'utilité publique, encore une fois.
J'adore.
J'étais dans une réflexion où je me disais, on a besoin de bienveillance, on a besoin d'ouverture d'esprit, on a besoin de décomplexer les gens sur le fait que, je sais pas, les femmes sont pas obligées d'avoir des enfants, qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de couple, que c'est OK si... Enfin, le polyamour, enfin, tu vois, d'ouvrir vraiment avec bienveillance les esprits et de se dire qu'on n'est pas obligé de fitter dans les cases de la société telle qu'elle nous a été présentée depuis toujours. Et du coup, pour moi, c'est essentiel que ça s'arrête pas. Donc oui, j'ai des grands rêves pour Paulette parce que je veux absolument pas que ça s'arrête. J'ai de l'ambition, d'où justement aussi l'envie de lancer Paulette en anglais là en janvier. Ça faisait 10 ans, je trouvais que c'était pertinent.
Ouais.
Surtout qu'en plus sur Instagram, le deuxième pays à nous suivre, c'est les États-Unis, le troisième, c'est le UK.
Ouais.
Donc je pensais qu'il y avait vraiment une communauté prête à suivre Paulette. Et puis, et je pense que plus des messages positifs comme ça seront diffusés, mieux sera le monde en vrai, hein, franchement.
Ouais. Ouais.
Et que plus il y a d'initiatives comme Paulette, moi j'adore aussi voir tous ces petits médias féminins, féministes qui se lancent parce que je trouve qu'on a besoin en fait. Donc je serais trop contente. Donc moi, où on sera dans 10 ans, je sais pas, parce que en fait, justement, je suis curieuse de savoir comment la technologie va évoluer. Moi, je dis toujours Paulette, ça sera toujours là, mais la forme, je la connais pas. Si demain l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle devient nos quotidiens, je sais que je réinventerai Paulette sous ce format-là. Ça, c'est certain. Parce que dans un nouveau monde qui change technologique, on aura besoin des mêmes valeurs. Et puis souvent les évolutions technologiques amènent avec elles des nouveaux problèmes sociétaux
auxquels
il va falloir répondre et là où la bienveillance sera toujours plus que de rigueur. Donc pour moi
c'est un média éternel
éternel et c'est juste, par contre je suis super excitée par l'évolution de la société et des technologies parce que je me dis que du coup on va vraiment devoir se challenger sur ça, ce qu'on fait depuis le début mais qui est passionnant.
Pourquoi Paulette?
Eh bien parce que en gros, donc déjà, je voulais que ce soit français parce que on lit, tu vois, un Glamour, un Vogue, un Cosmopolitan, c'est des titres étrangers qui ont une version française. Mmh. Et je trouve que comme j'avais pompé le concept sur aucun média étranger, j'avais vraiment envie de le signer français pour que si ça perdure, on dise c'est un concept français. davantage, je trouve ça important. Ensuite, un prénom plutôt qu'un adjectif, parce que pareil, tu vois, vogue, jalouse, glamour, c'est des adjectifs. Je trouve qu'un prénom, ça met de la personnalité. Pour moi, c'est hyper important, et c'est ce qui, pour moi, je retrouve dans toutes mes lectrices et tous les commentaires qu'on a sur les réseaux, et puis toutes les filles qui ont participé à ce projet depuis toujours, c'est des gens qui ont des choses à dire, qui n'ont pas peur de s'assumer comme ils sont, et du coup, ils ont de la personnalité, selon moi. Ils n'essayent pas de rentrer dans les normes, ils essayent d'être eux. Ouais. Et donc, du coup, un prénom, ça donne le ton. Donc ça, c'était méga essentiel. Un prénom féminin français, féminin parce qu'on est parti sur le féminin, mais même si l'époque évolue énormément avec la notion de genre, c'est pareil, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, où je trouve que justement dans les pages de Paulette, de plus en plus on met des garçons maintenant, parce que j'adore l'idée aussi de no gender, et aujourd'hui j'ai l'impression même chez les jeunes que la sexualité elle se transforme et qu'il se passe plein de trucs, donc là c'était féminin parce qu'à l'époque de toute façon ça venait contrer le territoire des féminins qu'on connaissait. Et puis ensuite, pourquoi Paulette plus que Jacqueline par exemple, déjà, alors oui, dans le côté vieux prénom, pourquoi le vieux prénom, en fait le vieux prénom pour moi évoquait la bienveillance, c'est-à-dire ce truc chaleureux qui te veut du bien, et j'étais vraiment, pour moi c'était essentiel qu'on sente que c'est un magazine qui veut du bien aux femmes, et ça te rappelle une grand-mère, une grande-tante, quelqu'un qui n'a pas envie, tu vois, de t'enfoncer normalement. et puis en même temps, je trouvais ça extrêmement drôle et décalé, entre deux magazines de mode féminin qui se la pètent, parce qu'ils s'appellent Vogue, Glamour, Cosmopolitan, tu vois, des mots comme ça un peu pompeux, je trouvais ça génial d'arriver avec un prénom de mamie. Il y avait un côté autodérision, humour, qui fait aussi beaucoup partie du ton et de l'écriture Paulette, de on se prend pas au sérieux, on fait des pirouettes humoristiques. Et donc du coup je trouve que c'était essentiel, et ensuite j'ai listé plein de vieux prénoms féminins français. Et Paulette, bah, c'était joli, ça sonnait bien. Il y avait le et, il y avait le L, le P. Enfin, en plus, graphiquement, moi, du coup, je pensais en tant que graphiste aussi, ça allait être super beau en logo. Donc, voilà.
Trop cool. Mm. C'est une belle réflexion.
Mais je ne connais aucune Paulette. C'était vraiment une construction finalement de sens.
Mais comme tu dis, c'est un imaginaire. Ouais. Et c'est limite encore mieux parce que quand tu connais le prénom, tu penses aux gens que tu connais.
Ouais.
Donc, un prénom que personne ne porte aujourd'hui, ça nous laisse nous l'imaginer et nous l'approprier un peu.
Tu y associes les valeurs que tu as envie, ce que tu ressens. Okay.
Et la dernière question du podcast, c'est la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Alors, je pense qu'on va revenir à cette notion d'intuition et d'écouter son subconscient. Et prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est ne pas se laisser, même si c'est très dur, ne pas faire que nos choix soient guidés par autre chose que par ce que nous, on ressent. C'est-à-dire, ça peut être l'influence de la famille, l'influence d'un compagnon, d'une compagne, l'influence des réseaux sociaux ou de la pression que la société met sur nos épaules. Pour moi, avoir le pouvoir sur sa vie, c'est le pouvoir de s'écouter, d'être soi. Et c'est un pouvoir qui est souvent challengé, parce que tu peux très bien l'acquérir, par exemple, lors d'une action, d'un moment, une prise de parole, et te dire « Putain, je me suis assumée, j'ai le pouvoir sur moi », et puis 10 minutes plus tard, le perdre complètement dans une autre situation. Ah ouais. Je pense que c'est comme la confiance en soi, finalement. Hein. C'est pas du tout un truc qui, pour moi, est linéaire. C'est ça aussi. Il y a des jours où t'es au top, il y a des heures où t'es au top, puis il y en a d'autres où tout d'un coup, tu te sens comme une gamine qui a plus du tout confiance, alors qu'une heure plus tard, avant, t'étais Beyoncé, tu vois.
Ouais.
Et je pense qu'il faut accepter le fait que c'est absolument pas linéaire et qu'on est tous pareils, c'est ça qui est génial. C'est que finalement, même une Rihanna, une Beyoncé, elles ont des moments de down, même Oprah a des moments de down. Toutes les personnes que tu regardes avec des grands yeux en disant putain, mais elle est invincible, elle aussi, elle a ces moments de manque de confiance en elle et de down que tu soupçonnes des fois même pas. Et donc, du coup, prendre le pouvoir sur sa vie, c'est déjà accepter ses hauts et ses bas et le fait que tu vis en paix avec ça, tu vois.
Ouais. J'adore, super. Merci beaucoup Yvan d'être venue sur InPower.
Merci,
ça me fait très plaisir de te rencontrer et d'en savoir plus sur toi et ton univers. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qui veulent en savoir à la fois plus sur toi, à la fois plus sur Paulette et sur tes différents projets.
Et ben, on les redirige, je pense, sur Instagram. Déjà, c'est la plateforme sur laquelle on est vraiment méga actif. Donc @Paulette, @Irénette pour moi, et puis @Hacker et Ezo Paris pour mes autres projets. Et puis sur notre site, pour ceux qui aiment lire, parce qu'il y en a encore.
Ouais.
On a des articles quand même qui sont vraiment hyper intéressants, et dans les kiosques pour ceux qui aiment le papier.
Ouais.
Parce que clairement, c'est un bel objet qu'on prend soin de préparer et dans lequel on met beaucoup de cœur, et avec des articles de fond vraiment intéressants. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas remis un pied dans les kiosques depuis longtemps, je vous conseille d'aller chercher le numéro d'été qui d'ailleurs sort demain.
Ah, génial.
C'est l'occasion. Le podcast sortira, mais en tout cas,
il sera en kiosque.
Le mag d'été sera sera sorti et le thème c'est les émotions. Donc on s'est bien amusé à aller creuser justement sur la source de nos émotions, pourquoi on ressent telle ou telle chose, la peur, les hommes et leurs émotions. Enfin, c'est un numéro assez passionnant quoi.
Super, bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour qu'on puisse tout retrouver.
Génial.
Et je te dis à très vite.
À bientôt.
Salut Ariane.
Au revoir.
C'est déjà la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en le partageant sur Instagram, en taguant @mybetterself et @irenette, et en vous abonnant au compte du podcast @inpowerpodcast. C'est aussi en le partageant à vos amis que vous permettez à InPower de grandir, et qui sait, peut-être en inspirer certaines et certains. Je vous remercie sincèrement et j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain 7h pour le tout nouvel épisode d'InPower.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.